Minuit 3.
Chapitre 71 L'histoire du Jéroboam.
Le navire et sa brise arrivaient de conserve sur nous, mais la brise fut la plus rapide et le Pequod se mit bientôt à rouler. À la longue vue, ses pirogues et ses vigies postées au mât révélèrent que l'étranger était un baleinier. Mais comme il filait si loin au vent et semblait avoir mis le cap sur un autre parage, le Pequod ne pouvait espérer le rejoindre. Aussi, on hissa le signal pour voir quelle réponse il ferait. Il me faut dire ici que, à l'instar des vaisseaux de guerre, les navires de la flotte baleinière américaine possèdent chacun un signal particulier, et que tous ces signaux, accompagnés du nom du bâtiment correspondant, figurent dans un livre qui est en la possession de chaque capitaine. De la sorte, les commandants des baleiniers peuvent se reconnaître sans peine sur l'océan, même à des distances considérables. En réponse au pavillon du Pequod, l'étranger finit par amener le sien, qui nous apprit qu'il s'agissait du Jéroboam, de Nantucket. Brassant carré, il courut sur nous, se rangea par le travers sous le vent du Pequod et mit une pirogue à la mer. L'embarcation approcha rapidement, mais comme, sur l'ordre de Starbuck, on déroulait l'échelle de côté pour recevoir le capitaine qui nous visitait, celui-ci, depuis l'arrière de sa baleinière, nous fit comprendre d'un geste de la main que la manœuvre était totalement superflue. Il s'avéra qu'une épidémie maligne sévissait à bord du Jéroboam et que Mayou, son capitaine, craignait de contaminer l'équipage du Pequod. Bien que lui-même et les hommes de la baleinière eussent échappé à la contagion et que la distance d'une demi-portée de fusil qui les séparait du navire fût celle d'une mer et d'un air incorruptible, il observait au pied de la lettre la timide quarantaine du port et refusa catégoriquement d'avoir un contact direct avec le Pequod. Cela, toutefois, n'empêchait pas la communication. Maintenant, à un intervalle de quelques dizaines de pieds avec notre bord, la pirogue du Jéroboam parvint, grâce à des coups de rame intermittents, à garder sa position parallèle au Pequod, qui courait maintenant sur son air. La brise ayant fortement rafraîchi, son grand hunier coiffé. Si, parfois, la poussée d'une grosse vague déferlante jetait la baleinière en avant, celle-ci était bientôt ramenée avec dextérité à sa bonne place. Une conversation, dès lors, se déroula entre les deux parties, soumise à ses caprices et à d'autres du même genre, mais également gênée de temps à autre par des interruptions d'une nature bien différente. Il y avait sur un banc de nage de la baleinière du Jéroboam un marin d'aspect singulier. Même dans le monde très bigarré de la pêche baleinière, où les équipages sont des additions de personnalités originales, c'était un homme de petite taille, râblé, d'allure assez jeune, au visage semé de taches de rousseur, avec une abondante crinière d'un blond filasse. Il portait une vareuse et longue basque, d'un ton passé de broue de noix, dont le dessin avait quelque chose d'un signe cabalistique. Ses manches trop longues étaient roulées au poignet. On voyait dans ses yeux l'éclat d'une folie profonde, fanatique, sans remède. Dès que ce personnage était apparu au regard, Stubb s'était écrié. C'est lui! C'est lui! Le scaramouche en robe de chambre dont l'équipage du Holla Hope nous a parlé. Stubb faisait allusion à une étrange histoire qui courait sur le Jéroboam et l'un de ses hommes et qui nous avait été contée lorsque le Pequod avait fait résonner le Holla Hope. Selon ce récit et des informations glanées ultérieurement, il apparaissait que le scaramouche en question avait acquis un extraordinaire ascendant sur presque tous les marins du Jéroboam. Voici quelle avait été son aventure. Il avait été élevé parmi les membres passablement dérangé de la secte des trembleurs de Niskayuna. Grand prophète, il était à plusieurs reprises au cours de réunions secrètes de ses esprits fêlés, descendus du ciel par une trappe, en annonçant l'ouverture prochaine de la septième folie de l'Apocalypse, qu'il portait dans la poche de son gilet, et qui contenait non pas de la poudre à canon, mais, supposait-on, du laudanum. Saisi d'un étrange caprice apostolique, il quitta Niskayuna et se rendit à Nantucket, où, avec cette ruse particulière à la folie, il se donna des allures posées et raisonnables et offrit ses services de novice pour la campagne du Jéroboam. On l'enrôla. Mais à peine le navire avait-il gagné la pleine mer que les digues de la raison furent emportées. Il se présenta comme l'archange Gabriel et ordonna au capitaine de sauter par-dessus bord. Il rendit public un manifeste par lequel il se désignait libérateur des îles de l'océan et vicaire général du continent océanien. L'inflexible sérieux avec lequel il faisait ses déclarations, le jeu hardi et ténébreux de son imagination exaltée et insomniaque, auxquels s'ajoutaient les 1000 terreurs surnaturelles que suscite une vraie démence, eurent tôt fait de conférer à ce Gabriel, dans l'esprit des marins ignorants qui composaient l'équipage, une auréole de sainteté. En outre, ils avaient peur de lui. Mais comme l'individu n'était pas d'une grande utilité à bord et qu'il refusait de travailler quand tel n'était pas son bon plaisir, le capitaine, rien moins que crédule, se fut volontiers débarrassé de lui. L'archange, apprenant qu'on se proposait de le débarquer dans le premier port propice pour ce faire, ouvrit sur le champ ses seaux et ses fioles, vouant le navire et son équipage à une perdition absolue si ce projet était mis à exécution. Il avait si bien manipulé les disciples qu'il avait parmi les marins du navire que tous les hommes allèrent en bloc trouver le capitaine et lui annoncèrent que si Gabriel devait quitter le bord, aucun d'entre eux n'y resterait. Le capitaine fut donc contraint de renoncer à son plan. Ils exigèrent aussi qu'aucun mauvais traitement ne fût infligé à Gabriel, quoi que celui-ci pût dire ou faire. C'est ainsi que l'archange finit par jouir d'une totale liberté sur le navire. Indifférent à l'autorité du capitaine et des seconds, il avait, depuis que l'épidémie s'était déclarée, affermi la sienne propre et allait clamant que la peste, ainsi qu'il l'appelait, avait éclaté sur son ordre et continuerait de sévir tant qu'il le voudrait. Les matelots, de pauvres diables pour la plupart, filaient doux. Certains rampaient devant lui, et, se pliant à ses volontés, lui rendaient un culte personnel comme à un dieu. De telles choses peuvent paraître incroyables, mais si étonnantes qu'elles soient, elles n'en sont pas moins vraies. Et, s'agissant de fanatiques, on n'est pas tant frappé par la capacité de l'illuminer à se leurrer lui-même que par le pouvoir illimité qu'il a de berner et de mystifier tant d'autres. Mais il est temps de revenir au Pécode. « Je ne redoute point ton épidémie, mon ami, » dit Akab de la rambarde, au capitaine Mayou, debout à la poupe de la pirogue. « Monte à bord !» Mais Gabriel avait bondi sur ses pieds. « Les fièvres, songe aux fièvres, jeune et bilieuse, garde-toi de l'horrible peste !»« Gabriel ! Gabriel !» s'exclama le capitaine Mayou. « Je t'ordonne !» Mais à cet instant, une vague impétueuse projeta la baleinière loin en avant, noyant dans ses bouillonnements la suite des mots prononcés. « As-tu vu le cachalot blanc ?» demanda Akab lorsque la pirogue eut été ramenée en arrière. « Le navire ! Songe à ton navire défoncé ! Coulez bas ! Garde-toi de l'horrible queue ! Gabriel, je te répète que... » Mais la pirogue fut à nouveau entraînée vers l'avant, comme par une armée de démons. Plus un mot ne fut prononcé pendant quelques instants. Des lames se pressaient alentour, véhémentes, qu'un caprice de l'océan faisait se briser en écume, sans soulever l'embarcation. Pendant tout ce temps, la tête suspendue du cachalot s'agitait avec violence, et l'on pouvait voir Gabriel la fixer avec plus d'appréhension, semblait-il, que sa nature d'archange ne l'eût justifiée. Lorsque cet intermède eut pris fin, le capitaine Mayou se lança dans une sombre histoire concernant Moby Dick. non sans être fréquemment interrompu, chaque fois que son nom était prononcé par Gabriel et la mère en furie qui semblait s'être liguée avec lui. Il ressortait de ce récit que le Jéroboam ne s'était pas beaucoup éloigné de son port d'attache, lorsque, ayant hélé un baleinier, l'équipage fut, de bonne source, informé de l'existence de Moby Dick et des ravages qu'il avait causés. Faisant ses délices de cette information, Gabriel lança au capitaine un avertissement solennel, lui conseillant de ne pas attaquer le cachalot blanc au cas où le monstre serait signalé, et affirmant dans son délire incompréhensible que le cachalot blanc était rien de moins que l'incarnation du dieu Trembleur. C'est ainsi que les Trembleurs interprètent la Bible. Mais lorsque, un ou deux ans plus tard, les vigies aperçurent bel et bien Moby Dick, Massé, le second, fut saisi d'un violent désir de l'affronter, et comme le capitaine de son côté, malgré les accusations et les mises en garde de l'archange, était tout disposé à lui en laisser l'opportunité, Massé parvint à convaincre 5 hommes d'armer sa baleinière. Tout ce monde poussa au large, et après une nage épuisante et maint assaut périlleux et infructueux, il réussit à planter un fer. Entre-temps, Gabriel était monté à la tête du grand mât d'où, avec des gestes frénétiques, il prophétisait bruyamment le prompt anéantissement des impies qui attaquaient le dieu. Or, tandis que Massé le second, debout à l'avant de sa baleinière, déversait sur la baleine avec l'énergie et la hardiesse de sa race, un torrent de véhémente invective, tout en guettant le moment favorable pour jeter sa lance, une ombre blanche, immense, s'éleva de la mer avec des balancements rapides d'éventail qui coupèrent le souffle au canotier. L'instant d'après, le malheureux et pétulant lieutenant était projeté dans les airs, et le corps, après avoir décrit une longue courbe, retombait 50 mètres plus loin. Pas un bordage de la pirogue n'avait été égratigné, pas le moindre cheveu. Pas le moindre cheveu d'aucun canotier effleuré, mais le second avait sombré. Il convient de préciser ici, en passant, que dans la pêche du cachalot, les accidents mortels de ce genre sont sans doute aussi fréquents que n'importe quel autre. Parfois, en dehors de la mort d'un marin, aucun dégât n'est à déplorer. Il arrive plus souvent que l'avant soit arraché ou que la planche d'appui où se tient le chef de pirogue soit emportée avec lui. Mais, chose étonnante, dans plus d'une circonstance, le corps repêché ne portait pas la moindre trace de violence. L'homme avait été tué net. Toute cette scène de catastrophe, avec la chute de Massé, avait été distinctement perçue du navire. Gabriel lança un cri suraigu. « La fiole ! La fiole !» qui dissuada l'équipage terrifié de poursuivre la chasse. Ce terrible événement conféra à l'archange un surcroît de prestige. Ses disciples crédules, pensant qu'il avait exactement prédit, et non qu'il avait fait une prophétie de caractère général, comme tout un chacun eût pu en faire sans grand risque d'erreur. Il devint une terreur sans nom à bord. Mayou, ayant terminé sa relation, Akab lui posa des questions, d'une telle nature que l'étranger ne put se retenir de lui demander s'il avait l'intention, le cas échéant, de chasser le cachalot blanc. « En effet, » répondit Akab. Gabriel aussitôt sauta d'Erechef sur ses pieds et, jetant au vieil homme un regard incandescent, s'exclama avec véhémence, le doigt pointé vers les eaux. « Songe au blasphémateur, songe aux morts, envoyé par le fond. Garde-toi de finir comme le blasphémateur. » Impassible, Akab se détourna, puis il dit à Mayou. « Capitaine, je pense à l'instant au courrier que je transporte. Si je ne me trompe, il y a une lettre pour l'un de tes officiers. Starbuck, voyez dans le sac. Tout navire baleinier emporte une certaine quantité de lettres destinées à divers navires, dont la remise dépend du seul hasard de la rencontre du destinataire dans l'un ou l'autre des 4 océans. Aussi, la plupart des lettres ne parviennent-elles jamais aux intéressés, et beaucoup ne les reçoivent que 2 ou 3 ans, parfois plus, après qu'elles aient été expédiées. Starbuck revint bientôt avec une enveloppe à la main. Elle était affreusement chiffonnée, détrempée, couverte de lamentables taches de moisissure, verte, du fait de son séjour dans un sombre équipé de la chambre. De pareille missive, la mort elle-même eût pu être le facteur. « Tu ne peux donc pas le lire ?» s'écria Akab. « Donne-la-moi, mon gars. »« Ah, je vois, ce n'est qu'un gribouillage pâli, mais qu'est-ce que ceci ?» Tandis qu'il déchiffrait la suscription, Starbuck saisit un manche de louchet et y fit avec son couteau une fente peu profonde, afin d'y introduire la lettre et de la faire passer, à la baleinière sans que celle-ci ait besoin de s'approcher davantage du navire. Akab, pendant ce temps, la lettre à la main, murmurait. « Monsieur Harry !» Une minuscule écriture de femme, son épouse, je parie. « Oui, Monsieur Harry Massey. Navire Jéroboam. Mais il s'agit de Massey, et il est mort. Pauvre garçon, pauvre garçon !»« Et la lettre est de sa femme, » soupira Mayou. « Mais donne-la-moi. »« Sûrement pas. Garde-la pour toi, » lança Gabriel à Akab. Tu prendras bientôt le même chemin. Que tes malédictions t'étouffent, tonna Akab. Capitaine Mayou, arrêtez-vous à la recevoir. Apprêtez-vous à la recevoir. Et, prenant la fatale missive des mains de Starbuck, il la glissa dans la fente de la hampe qu'il tendit vers la pirogue. Les canotiers, qui attendaient ce geste, cessèrent un instant de nager et la baleinière dériva un peu vers l'arrière, de sorte que la lettre se trouva soudain, comme par magie, à portée de la main avide de Gabriel. Il s'en empara sur le champ, attrapa le couteau de la baleinière, y piqua la lettre et le renvoya ainsi lesté sur le pont du navire, où il tomba aux pieds d'Akab. Gabriel, hurlant, ordonna à ses camarades de scier, et c'est ainsi que cette baleinière de mutins s'éloigna rapidement du Pécode. Et tandis que, après cet intermède, les matelots reprenaient leur travail sur le manteau du cachalot, bien des propos étranges furent échangés au sujet de cette ténébreuse affaire.